Cascodeur Podcast, épisode 108. Waf waf. Enregistré le 4 septembre 2014.
Désolé pour le petit problème audio au niveau de ma voix qui sature beaucoup sur cet épisode. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Ça faisait longtemps, on est le 4 septembre 2014. C'est l'épisode 108. 108 comme les 101 dalmatiens et les 7 nains.
Pas mal.
Il l'a préparé,
108 ça, comme le nombre de minutes de soleil qu'on a eu en août, n'est-ce pas? Et 108 comme le nombre de photos prises pendant le shoot d'Antonio qui est placardé partout dans Paris là.
Yes, I am.
Je suis
super contente. C'est ma mère qui est super. Je suis dans le RERA, je suis dans les gares, je suis partout. C'est incroyable. Non, en fait, pour la petite histoire, je suis un ancien des arts et métiers et ils ont demandé aux anciens élèves de faire des photos et des interviews. Voilà. Donc, on a eu une dizaine. Mais c'est vrai que c'était marrant parce que on m'a mis sur une terrasse d'un immeuble à Paris, on m'a maquillé, on m'a pris des photos, on m'a dit plus comme ci, plus comme ça, souris, souris pas, enfin bon bref. Donc voilà.
Donc c'est pas Betty qui a pris les photos.
Non.
D'accord. Ben, ça aurait pu être marrant. Ok.
Ouais, mais ça aurait été après sur 4chan et tout ça, les photos. Alors, c'est
bon. Il y en a qui ont eu des problèmes.
Alors, j'ai lu un truc là-dessus, justement. Non, pas là-dessus, d'ailleurs, pardon. Sur un truc lié. Vous savez qu'on avait parlé de Google qui avait implémenté le droit à l'oubli.
Oui. Oui.
Et donc, quand vous allez sur google.com, vous n'avez pas le droit à l'oubli. Mais par contre, quand vous allez sur google.fr et que vous tapez le nom de quelqu'un, si vous regardez tout en bas, il dit les résultats peuvent être tronqués à cause de la directive européenne du droit à l'oubli. Sauf que ils font pas ça pour tous les noms. Les gens qui sont des célébrités, en fait, n'ont pas le droit à l'oubli. Et donc, en fonction des noms, tu vas avoir affiché tout en bas cette notion de truc tronqué ou pas. Donc, si tu veux savoir si tu es quelqu'un de connu...
Je suis pas une
célébrité. Google.fr, hein. Et donc c'est marrant. Bon, moi je suis une célébrité, mais je pense qu'il y a tellement de Bernard dans le monde qui, en fait, c'est lié au nombre de requêtes qu'ils reçoivent sur les noms. Et donc les noms un peu communs, je pense que vous êtes des célébrités par le volume. Et donc c'était marrant
et
de faire
que
un
tu
petit,
vois ça, alors,
petit truc d'ego.
Que c'est filtré ou pas?
En bas.
Some results may have been removed under data protection law in Europe.
Voilà, donc
mais
ça veut dire que tu n'es pas une célébrité.
Je t'ai cherché toi là.
D'accord.
J'ai mis Emmanuel Bernard et je vois ça. Hein. Enfin bon, bref, on va pas faire un concours de qui pisse le plus loin non plus.
C'est ça. moi, quand je le fais, je me vois pas, c'est intéressant.
D'accord. Ben moi, je me vois. Enfin bref. Bon.
Bref. Donc on va se lancer comme d'habitude, on va commencer par les langages. Il y a Matt Rebel qui a fait fin août un petit article sur le futur de Scala qui était en gros plus ou moins un résumé de ce que TypeSafe avait écrit sur le futur de Scala. Et notamment, un truc qui est intéressant, c'est qu'ils veulent que donc un Scala 2.12 ne supportera que Java 8. Et ils veulent avoir une super interopérabilité avec Java 8. Et puis, ils s'accrochent au projet Valhalla, et non pas Vanilla, qui... Je suis sûr que j'ai déjà fait cette blague là de con. C'est ça. Qui est une expérimentation sur OpenJDK pour améliorer l'interopérabilité. Améliorer certaines choses, notamment sur les types génériques qui avaient été faits avec des contraintes bien précises en tête. Ce qui est intéressant, c'est que le projet Valhalla, c'est genre oulala, attention, big warning, probablement page JDK 9, nous engueulez pas si ça arrivera pas, si ça arrive pas à ce moment-là, etc. Donc c'est un petit risque pour les gens de TypeSafe de se lancer, enfin de s'accrocher à ce truc-là en fait. Je trouvais ça intéressant comme info.
Enfin, ils disent quand même que Scala 2.12, c'est ça, c'est pour 2016 apparemment.
Ouais, 2016, donc, c'est demain pour un JDK.
T'as encore
oui,
le temps.
C'est vrai, oui.
2016, d'accord. Et il parlait aussi de, attention, hein, si vous utilisez les fonctionnalités dites expérimentales dans ce cas-là, ben, vous n'êtes pas garanti, encore moins garanti que votre code ne voudra pas le faire évoluer, notamment les trucs sur les XML littéral, les choses comme ça. En parlant de ce cas-là, il y a, pour rendre les trucs encore plus confus, il y a un autre truc qui s'appelle typelevel.org, qui regroupe, si je comprends bien, un certain nombre de projets faits en Scala. C'est des projets un peu connus, genre Scala Z notamment, Argonaut, je crois que c'est un peu connu aussi, etc. Enfin, moi, je suis pas trop dans ce monde-là, donc m'engueulez pas. Et ils ont dit, voilà, nous, on n'est pas super contents de la roadmap que TypeSafe prévoit pour Scala, notamment le compilateur. Et donc, on va forquer le compilateur et rajouter nos trucs qu'on veut, notamment en termes d'innovation, parce que de ce que j'ai compris, eux, ils estiment que TypeSafe maintenant veut de la performance, de la stabilité et pas forcément des fonctionnalités qui manquent.
Et ils les bâchent un petit peu aussi en disant que TypeSafe, c'est une boîte, ils veulent faire de la thune, ils veulent se concentrer sur Play, etc. Bon, j'ai trouvé ça un peu limite par endroit en disant TypeSafe, c'est une boîte, ils veulent faire de la thune, donc ils font ça. Bon.
Bah, ça drive quand même la roadmap quand même. Hein.
Ouais, enfin, ils disent TypeSafe étant une boîte, ils font ça, mais nous, on sait pas la direction qu'on veut pour la communauté Scala, et donc on fait notre fork. Mais on va essayer de rester compatible avec le compilateur Scala, d'une manière ou d'une autre, donc j'ai pas bien compris comment ils allaient tout faire ça. En tout cas, voilà, ça a créé plein de points d'interrogation de ce que j'ai compris dans la communauté Scala, ce qui arrivait. Il y a Martin Andersky qui a fait une réponse assez corporate, on va dire quand même, qui explique que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pour ça qu'il avait fait open source, il avait prévu depuis 15 ans que des gens allaient vouloir forker, que c'est super,
et qu'il leur souhaite bonne chance. Et il leur dit quand même, on intégrera les petits bouts de votre fork sympa, s'ils s'intègrent bien, etc. Ah. C'est vrai c'est vrai que c'est un message assez bisounours en disant... n'hésitez pas à merger les bonnes choses de votre fork chez nous.
Ouais. Voilà, donc c'était le micro-drama de la semaine dans cet univers-là. Groovy.
Après Dallas, Scalas.
Dallas, j'y suis la semaine prochaine là, pour la conférence Spring One 2GX où justement on parlera de Groovy. Et donc là, on a sorti une nouvelle bêta de Groovy 2.4. C'est la version de Groovy qui fonctionne bien sur Android. Et en particulier, là, on a réduit la taille du bytecode, par exemple, ce qui est plutôt sympa pour Android, parce qu'il y a un nombre limité de méthodes qu'on peut avoir dans les fichiers APK et tout ça là, d'Android, des espèces de jars de leur bytecode à eux. Là. Donc on a continué dans cette voie-là pour le support d'Android avec Groovy. Et pendant mes vacances, au mois d'août, là, il y a le New York Times qui annonce là, sur son blog Tech qu'ils vont en fait réécrire et remettre à jour leur appli Android en utilisant Groovy. Donc elle va être écrite avec du Groovy. Et donc c'est sympa parce qu'ils disent qu'au niveau performance c'est pareil qu'en Java, qu'ils vont pouvoir utiliser les closures parce que pour l'instant on ne peut pas utiliser des lambda sur Android. Enfin quoi que je crois qu'il y a des. Il n'y a pas un outil comme Retro Translator, un Retro Lambda ou un truc comme ça, je pense qu'il faudrait voir si ça s'utilise sur Android, je sais pas. Et puis qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser aussi RX Java. Donc RX Java plus Groovy, c'est leur combinaison pour rendre leur application Android plus réactive, etc. Donc c'est un beau petit coup de pub pour Groovy de voir qu'un grand journal comme le New York Times adopte Groovy. Voilà.
Pardon, je m'étais coupé.
Oh, le bueno.
Bueno, bueno.
Oh, le flop.
C'est ça.
Il s'est muté.
Sinon, on va parler Java, le langage. Donc, il y a quelques articles sur des bonnes pratiques en Java. Qui c'est qui a mis ça?
C'est moi qui ai mis ça. Alors, des fois, il y a des trucs un peu bateaux, des fois, des trucs pas mal, comme par exemple... Alors, je sais plus, il y en a une dizaine, je crois, de règles. Ouais, il y en a 10. Ouais. Donc, c'est des petits conseils sur... les signatures de méthodes, sur l'utilisation de final, des remarques aussi sur l'implémentation d'equals, qu'est-ce que j'avais vu d'autre qui était intéressant, les histoires des API qui retournent nul, ouais, c'est toujours un peu dangereux, parce que t'es jamais à l'abri d'une null pointer exception.
C'est ça.
Ou aussi, il y en avait un qui était pas mal sur le design d'API. C'était par rapport à, par exemple, tu sais, si tu fais une interface au event listener avec une méthode void message qui prend string message, bah, à un moment, peut-être que tu vas vouloir ajouter un ID, peut-être un autre champ, etc. Du coup, pour arriver à faire évoluer ton API, bah, c'est un peu plus difficile. Et par exemple, il suggérait de créer un message context qui porterait ces informations-là, donc avoir des API et des types plus riches finalement pour pouvoir mieux évoluer au cours du temps. Donc il y avait quelques
Je fais systématiquement maintenant surtout dans les specs
les API,
on a des risques de dire bah qu'est-ce qui se passe si on veut rajouter que des explosions du nombre de méthodes.
Ça c'est un des meilleurs conseils qu'il donnait là dans la dizaine de conseils là, j'ai trouvé. Donc c'était pas mal.
Good. Et pour les mots de passe.
Alors pour les mots de passe, là, donc comme on entend souvent parler de sécurité, de brèche de sécurité, etc. Comme là avec la récente
histoire. On a plus
entendu
parler de femmes à poil que de mots de passe volés. Hein.
Et bon, c'est quand même un sujet d'actualité. Tiens,
d'ailleurs, est-ce qu'il y avait des hommes à poil dans les photos?
Ah, ça, je sais pas. Mais je les ai toujours pas vues, les photos. Elles sont où, bon, bordel?
Je sais pas, j'ai pas cherché.
On en parle. Ah oui, ça me fait penser au... C'est Sacha, je crois, qui avait tweeté un truc, là. Je crois que c'était pas par rapport à 4chan et iCloud et tout ça, mais qui montrait la différence entre les journaux suisses et les journaux américains, où le journal suisse floutait le visage de la personne, la femme qui montrait son sein. Et sur le journal américain, il floutait le sein, mais il montrait la tête de la personne. Ce qui était, tu vois, c'est
où tu fais un merge
privacy
des deux,
versus
puis voilà.
Nudité. Voilà. C'était assez marrant. Mais bref, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par rapport à comment stocker des mots de passe, comment les gérer, d'utiliser SSL si tu dois transférer sur le réseau user mot de passe.
Surtout ne pas les stocker d'ailleurs.
Surtout ne pas les stocker.
Surtout ce qu'ils disent, c'est éviter autant que possible de laisser le mot de passe balader. Voilà, garde-le dans un endroit le plus précis possible et ne l'utilise que vraiment quand on a besoin. Donc rattache pas ça à ta classe user, à ton machin, etc. Où là, tu vas te le trimballer potentiellement partout dans ton code, dans ta mémoire, etc. Mais fous-le dans un champ déjà de type char et puis essaye juste quand t'as besoin de faire l'autant. Bah oui, là tu vas récupérer le mot de passe avec une API spéciale. Et le tester avec une API spéciale, etc. Mais voilà, c'est
tu les encryptes et tout ça.
Ouais,
et aussi l'utilisation tu disais les stocker en char, en tableau de char, c'est intéressant aussi parce que vu que dans la JVM, les chaînes de caractères sont mises en cache, si tu veux, en quelque sorte, c'est plus facile du coup avec des memory dump et tout ça de récupérer les mots de passe qui seraient en mémoire. Quoi. Alors qu'avec un tableau de caractères, tu ne le verrais pas forcément. Donc voilà, quelques petits conseils pour la gestion des mots de passe en Java.
D'accord. Et sinon, il y a une visualisation d'algorithme de garbage collection.
Ouais, ça, j'ai trouvé ça sympa.
En GIF animé, non?
C'est un petit GIF animé. Donc, on voit quand t'as pas de GC, quand t'as un GC qui fait du comptage de référence, quand t'as un mark sweep, un mark compact, comme dans Java, un collecteur par copie. Alors, je sais pas trop ce que c'est celui-là. Mais en tout cas, donc, on voit la petite animation. Où ils imitent, on est en train d'écrire à tel endroit, on accède à telle donnée, puis du coup, en fonction du code couleur, tu vois si la donnée a été rafraîchie ou accédée, etc. Et tu vois, des fois, il va vider tel espace, recopier telle donnée ailleurs. Donc, c'est une petite manière visuelle de comprendre un petit peu comment fonctionnent les différents algos de garbage collection.
Bon, ils mettent quand même un peu de texte à côté pour
expliquer, oui.
Parce que de base, c'est quand même pas super facile.
Ça donne une
voilà,
idée.
Sinon, J-Hipster qui va devoir se renommer maintenant qu'ils sont 1-0, hein, parce que c'est plus Hipster quand t'es en 1-0.
Ah ouais, stable.
J-Hipster 1-0-0 est sorti. Donc J-Hipster, c'est un espèce de framework ou un générateur de code.
Ouais, plutôt générateur de squelette de projet, quoi.
Voilà. Qui fait, en gros, enfin, Yeoman plus Maven plus Spring plus AngularJS.
Tu as des options, quand même. Du Hibernate, tu peux faire, voilà. Gradle versus Maven, tel. T'as plusieurs options, apparemment. J'ai l'appréhension que ça devient un peu presque un AppFuse.
Ouais, c'est un peu. Mais au lieu d'avoir 50 millions d'AppFuse, ils ont choisi un truc, ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, ça me
fait penser. Puis bon, là, ça génère. C'est un peu différent, bien sûr, mais ça m'avait fait penser à ça.
Ouais.
Sinon, il y a la duplication de chaînes de caractères dans Java 8
Update 20.
Ouais. Mais on n'en avait pas déjà parlé déjà des histoires de changement d'algorithme au niveau des chaînes de caractères.
Ben, je sais plus si c'était justement à propos de ce changement-là, mais en tout cas, là, maintenant, ça vient d'être officiellement rajouté, enfin, officiellement, c'est avec des flags spéciaux à rajouter sur la JVM, mais c'est dans G1 où ils permettent maintenant, justement, d'avoir ce nouvel algo qui permet d'économiser un peu de place en mémoire au niveau des chaînes. Et bon bah voilà, donc c'est juste pour l'instant c'est en option, c'est pas activé par défaut, et puis bon bah une fois que ça sera sec, je suppose qu'ils le mettront dans les algos de base activés par défaut, mais voilà, donc ça permet d'économiser, en gros ils vont chercher sur les ce que disait Guillaume tout à l'heure avec les fameux caches de string qui prennent pas mal de place un peu en mémoire, donc dès qu'on manipule pas mal d'infos de type string, donc là ils vont chercher, à ce que j'ai compris, les tableaux de char en fait associés au string dans lequel ils vont vérifier le hash, et quand il y en a deux qui ont le même, bah en gros ils disent à l'une de enfin là ils aux suivantes qui ont le même contenu de pointer sur le contenu de la première, voilà. Donc il y a tout un tas d'algos comme ça, et donc après derrière ils dégagent le contenu de la string. En gros ils gardent les pointeurs et ils virent les contenus dupliqués, voilà. Donc bon,
d'accord.
À voir, mais bon, ils ont fait des petits tests machin, et donc ça leur donne des petites améliorations d'occupation mémoire sur des applis, sur leurs tests et sur quelques applis, voilà.
D'accord. Et sinon, quelqu'un voulait parler de deux Java Announcement Proposals.
Oui, bah c'est moi qui les avais rajoutés, puisque là ça a été officiellement réannoncé. Donc Jigsaw, le train repart.
Jigsaw is not dead.
Ouais, je sais plus trop à combien de fois on en est. Il repart donc pour Java 9 ou pas, on verra bien.
Le comeback de la résurrection.
Et donc là, c'était donc c'est toujours Marc qui a annoncé les deux JEP qu'il a mis en place. La première, c'est le fait de rendre le JDK modulaire. Donc ça, on en avait déjà parlé 50 millions de fois, donc d'avoir non pas un gros JDK, mais avoir un truc avec des sortes de profils, et donc de pas se balader avec obligatoirement Corba et je ne sais trop quel autre Swing ou etc. Si on a juste besoin d'une partie serveur pour faire des JSP ou autre, ou même sur un mobile, enfin, ou sur des trucs comme ça, bref. Et le modular source code, bah là c'est la partie outillage et partie qui va bien pour justement faire en sorte de pouvoir rendre modulaire le code du JDK lui-même, donc le redécouper comme il faut sous forme de module, le compiler et avoir l'outillage qui vaut bien pour gérer les modules. Voilà. Bon.
À suivre. Donc c'est les JEP 200 et 201.
Ouais, 200 et 201. Donc on verra bien.
Donc j'espère qu'on sera pas encore déçu une nouvelle fois, quoi.
Ouais, c'est bon.
Ça nous permet de parler dans le podcast.
Le jour où ça arrive, où ça sera enfin implémenté, on se dira bah flûte, on a plus rien à raconter.
Qu'est-ce
mais
qu'on
c'est
en
plus
a
possible.
Dire
c'est plus possible. Mais bon, je suppose que à Java One, ça va encore être sujet.
Là, justement, là pour Java One, ils ont publié l'agenda de la conférence, et moi je commençais à le remplir en me disant tiens, qu'est-ce que je vais aller voir. Puis je vois les talks sur Jigsaw, je me dis alors et j'y vais, ou alors je vais être déçu. Ou pas. Si c'est intéressant, je vais être déçu de pas y être allé. Et si c'est comme les dernières années où au final à chaque fois t'étais déçu parce qu'il enlevait des trucs ou il le repoussait ou quoi. Oh, du coup, je crois que je vais complètement zapper Jigsaw. Et puis de toute façon, il y aura bien quelqu'un qui fera.
Vas-y.
Non, il y aura bien quelqu'un qui fera la couverture du sujet. Et puis j'apprendrai de là, quoi. Mais comme ça, je perdrai pas mon temps et je pourrai regarder quelque chose de plus intéressant que de voir le Gus en train de je sais pas, tu sais, de secouer les bras en l'air. Hein. Bref.
C'est une image intéressante.
Non mais tu sais, je le vois en train de s'agiter, ça fait bouger ça fait bouger de l'herbe, mais il y a rien qui se passe, quoi, tu vois.
Bref. Ah d'accord. Brasser de l'air.
Okay. Brasser de l'air, ouais, merci.
Sinon JavaScript, il y a ECMAScript, vous savez, qui est la standardisation du JavaScript, la version 6 qui, je sais pas si elle est standardisée ou va être standardisée.
C'est pas tout à fait fini, ils sont en train de finir les touches, quoi.
Et donc, il y a un monsieur qui a fait des slides qui expliquent ce qu'il y a de neuf, voire même une présentation enregistrée sur InfoQ.
Ouais, c'était une présentation qui avait été donnée à QCon New York, et en fait, elle est très bien. Les slides montrent bien toutes les nouvelles fonctionnalités, ou comment on faisait avant, comment on fait maintenant. Et c'est vrai que les nouveautés, bon, le langage devient quand même assez compliqué, avec tout ce rajout de nouveautés, mais ça devient un langage quand même un peu plus sérieux. Si tu utilises The Good Parts et ces nouvelles fonctionnalités, je pense que tu peux, disons, programmer beaucoup plus proprement en JavaScript qu'à l'époque où on faisait des alertes il y a 10 ans, quoi. Voilà.
D'accord, ça me rappelle, j'ai fait un peu de Ruby là, j'ai mis des puts partout.
C'était un outprint tel.
C'est un peu mieux que l'alerte parce que j'ai pas cliqué sur un bouton pour enlever. Mais...
Non, maintenant, aujourd'hui, on fait console.log.
Voilà.
C'est mieux.
Maintenant, on va passer à Java E8 qui a eu aussi son micro-drama.
Un gros drame, un drame énorme.
Attends, avant de parler du drame, là, on fait monter la.
La sauce.
Et là, une page de pub. Non, on déconne.
Inscrivez-vous au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Vas-y, tu veux nous parler MVC1
Déjà, il y a pas mal de trucs. Donc, Java E8, là, en quelques jours à peine, il y a eu des JSR de filés. Alors, j'ai plus la liste en tête, mais il y en a quand même pas mal. Déjà, il y a Java E8, donc Java E8 est officiellement sorti. Alors, n'oubliez pas que la vie d'une JSR est mouvementée, c'est-à-dire que là, on en est au stade où les JSR sont émises au vote. Pendant 15 jours, il va rien se passer. Il y a l'expert committee qui va voter, et s'ils disent oui. Et ils disent pas toujours oui, parce que si vous regardez Java E6, il y avait eu un non. Donc si vous fouillez le site du JCP, vous trouverez un Java E6, une spec qui n'a pas eu le vote, et quelques semaines après, une proposition numéro 2, Java E6, qui a eu un oui. Donc là, on en est au stade où il y a eu CDI 2.0, Java E8, JSON B, donc la fameuse API de binding entre les objets Java et le JSON et vice versa, JMS 2.1, Servlet 4, JAXRS 2.1, MVC 1.0, donc ça c'est la petite dernière, et JSF 2.3. Donc toutes ces specs là, elles sont rentrées au vote. Début septembre, je crois. L'expert committee a 15 jours pour voter, donc c'est pas nous, hein, c'est eux. Ils votent, et au bout de 15 jours, si c'est accepté, il y a l'expert group qui se crée. Et une fois de plus, je vous recommande de participer aux spécifications qui vous plaisent. C'est assez simple. Il faut aller sur le site du jcp.org. Vendre son âme au diable en signant la JSPA, donc c'est un document écrit en anglais tout petit avec des tas de mots bizarres où vous donnez votre intellectualité, votre IP, votre propriété intellectuelle, etc., à Oracle, enfin au spec lead. Et c'est à peu près tout. Donc s'il y a une spec,
c'est déjà pas mal.
Bon, c'est déjà pas mal.
Ah bah ça va alors.
Non mais dites-vous juste que c'est signé 20 papiers. À part qu'il faut que ça soit signé par votre
qu'il
employeur
faxer,
et tout. Donc
qu'il
c'est
faut
un peu
l'envoyer,
le bazar.
Que machin.
C'est un peu
super,
le bazar.
Ouais.
Mais voilà.
Et lui, donc ça, ça fait pour faire partie d'un groupe. Voilà. Après, il y a plein de specs qui ont aussi de toute façon des mailing lists ouvertes.
Ou bleues.
sans particulièrement faire partie du groupe.
Oui,
genre bin validation.
Et puis il y a la nouvelle version du JCP, mais je crois que c'est dans la 2.9, et là on en est malheureusement à la 2.8, parce que le JCP est aussi normé par une spec. Et dans la 2.9, ils ont créé un nouveau rôle, je sais plus, ça s'appelle pas Observer, mais c'est un truc un peu comme ça. Donc aujourd'hui, le JCP, vous avez le spec lead, les experts membres, et c'est tout. Et là, dans la prochaine version, il y aura un rôle officiel. Je me souviens plus du
Lurker.
Nom. Lurker. Non, non. Enfin, bon, bref. c'est un être humain comme vous, comme n'importe qui peut observer une spec et participer, mais il y a des trucs qu'il peut pas faire, il a pas le droit de voter, mais il y a d'autres trucs qu'il peut faire, etc., etc. Bon, bref.
Bon, fou, c'est pas démocratique, de toute façon.
Oh, comme tu y vas.
Non, mais je veux dire, c'est au choix du spec lead de décider si c'est démocratique ou pas.
Oui. Donc voilà, il y a
Et MVCA, alors, voilà, donc, c'est quoi l'idée?
Il y a une 1.0, c'est donc MVC 1.0, c'est avoir un contrôleur MVC plus action base. Vous savez que JSF, c'est composant base. Et là, l'idée, c'est avoir une spec assez large a priori. Parce que au début, ils s'étaient dit, tiens, on va faire du MVC, mais uniquement pour REST. Et puis apparemment, non, ils sont partis pour faire du MVC avec un petit peu tout. Et l'idée, ça serait d'avoir, de spécifier un strut, de spécifier un Spring MVC, pour avoir uniquement un moteur MVC. Il n'y a pas de spec sur le templating, donc vous pouvez toujours écrire une page en facelets, en HTML ou autre chose. Le backend, c'est ce que vous voulez, et le contrôleur, il répond à de l'HTTP, donc pas que du REST. Bon, n'oubliez pas que quand une spec démarre en 2014, elle dit « moi j'aimerais bien faire ça ». Et puis 4 ans après, elle peut faire autre chose. Mais là, l'idée de la MVC1, c'est quand même un contrôleur MVC, mais qui ne serait pas que lié à JAX-RS. Donc on décorrélerait bien les deux specs. Bien sûr, MVC interagirait bien avec JAX-RS, mais l'idée qu'ils ont, c'est de pouvoir mettre autre chose aussi dedans. Voilà pour les nouveautés. JMS 2.1, on continue. Servlet 4, il parle surtout de HTTP 2. Donc voilà, la prochaine version de Servlet 4 supporterait le protocole HTTP 2.0. JAX-RS 2.1, j'ai pas suivi. CDI 2.0, je vais être officiellement dans l'expert group comme Java E8. Donc moi j'y crois, il y a pas mal de bonnes choses dans CDI 2.0. Et puis Emmanuel parlait d'un drame, effectivement, puisque on en parlait nous, et vous avez certainement lu des blogs, des tweets et des machins, il était prévu d'avoir une spécification sur la configuration. Comment je configure une application Java E au sens large, en mettant des properties à l'extérieur, à l'intérieur du WAR, dans le JNDI, l'XML qui override tout ça ou pas, bref. Donc c'est Anatole Stresch qui est un employé du Crédit Suisse, le Crédit Suisse qui fait partie de l'executive committee quand même, hein, et depuis un bail. Donc c'est une boîte qui est pas mal dans le monde Java E. Anatole Stresch a été co-spec lead avant aussi d'autres trucs. Et là, il était parti pour être co-spec lead avec Oracle sur la spécification Java config qui permettait tout ça. Et ce matin, il nous avait envoyé un mail hier soir. Et ce matin, il a écrit un blog en disant que ça ne se fera pas. J'ai pas tout compris, mais en gros, c'est co-spec lead Oracle et Crédit Suisse. Oracle n'est pas vraiment d'accord avec la licence du TCK. Donc Oracle a dit au Crédit Suisse, vous êtes tout seul à faire cette spec là. Et le Crédit Suisse aurait dit, non, tout seul, on va pas faire, c'est quand même un taf énorme. Donc bon, voilà, j'ai cru comprendre que c'était encore une énième fois lié aux licences TCK. C'est pas du technique, c'est vraiment pas du technique. Mais je n'en sais pas plus. Voilà. Donc, c'est dommage parce qu'on attendait ça avec impatience. Voilà, voilà.
Ouais.
Sinon, utilisez Spring en attendant. Depuis 2004 ou 3, je ne sais plus.
Delta Spike, qui a une belle extension sur la configuration, mais bon, bref.
C'est propriétaire.
Non, c'est une extension sur CDI, c'est portable.
D'accord.
Oh.
aussi portable que Java l'est, comme tout le monde le sait, write several times, run nowhere.
C'est ça. Sauf Windows, mais partout.
Sinon, on va passer au reste du middleware. Il s'amuse bien là, ça fait longtemps qu'on était, c'était pas retrouvé dans le bac à sable, ouais. C'est la rentrée. Middleware, oui. Donc, il y a AeroGear, le push server 1.0 qui est sorti. Donc, je vous en avais parlé un petit peu déjà. C'est l'idée de pouvoir, en une API de votre côté serveur, de pouvoir pousser des infos sur iOS, sur Android et sur les... Il y a un protocole de web push qui existe aussi. Voilà, donc ça y est, ils sont sortis de leur version bêta, vous pouvez aller voir. Ils ont aussi une cartridge Docker, enfin non, pardon, ils sont sur OpenShift et ils ont aussi un comment on appelle ça chez Docker, hein ?
Container.
Un container Docker, donc voilà, vous pouvez l'essayer un petit peu comme vous voulez. Sinon, il y a quelqu'un qui a écrit un article sur Hibernate et la notion de dirty checking comment on peut pourquoi dans certains cas ça prend du temps, notamment quand on a beaucoup d'entités dans sa session, genre plusieurs milliers, et comment on peut optimiser ça en utilisant l'instrumentation de bytecode, et dans ces cas-là, on peut mettre un petit flag au niveau de l'entité même pour savoir si elle a été touchée ou pas, et ça va plus vite. Par contre, faut faire du bytecode announcement, et donc voilà, c'est un peu plus
pénible
à mettre en place.
Il est pas mal cet article, il explique bien, fait, effectivement, ouais. Comment Dirty Check marche. J'ai jamais compris pourquoi il y avait pas une API là-dessus avec JPA. Tu sais, toi, pourquoi on peut pas dire donne-moi tout ce qui est dirty, est-ce que toi tu es dirty, pourquoi on n'a pas ça avec JPA?
Parce que
pour faire mumuse, enfin oui, non, effectivement, peut-être que au niveau business, on n'a pas beaucoup beaucoup besoin, mais moi, je sais que c'est un truc qui me titille. En tout cas, je me dis flûte, j'aimerais bien savoir où j'en suis, mais bon.
Eh ben ouais, enfin quand t'auras un use case valide, tu reviens.
Lorsque j'aurai un use case métier, ok.
Non, mais pas forcément un métier, mais un use case valide, parce que t'as quand même la notion d'événement où tu sais quand une entité elle va être processée, insérée, mise à jour, etc. Donc d'une manière ou d'une autre, t'as une notion de ce qui était dirty vient d'être poussé sur la base.
Est-ce que use case valide, c'est pour écrire un blog?
Pour écrire un blog sur quoi?
C'est pour se faire de la pub.
J'aimerais avoir une API pour écrire un blog.
Écoute,
sur cette
tout ce
API.
Que tu demandes, tu l'as pas. Les logs, tu les as pas. La configuration, tu l'as pas. Alors, demande pas.
C'est la meilleure manière d'avoir ce que tu veux, de pas demander.
Voilà. Non, mais bon, je suis un peu curieux sur le pourquoi en détail, mais ça peut éventuellement se faire. Une des raisons, c'est éventuellement de pouvoir transporter la session sur un autre serveur et de faire de la hot synchro, mais c'est plus tu peux le faire de manière propriétaire sans que ça soit problématique nécessairement. Sinon, il y a nos amis de polyglotte chez JBoss qui ont lancé un nouveau projet qui s'appelle Nodine. Et Nodine, c'est du Node.js sur la JVM. Donc on a Vertex qui est comme du Node.js, mais c'est pas littéralement Node.js sur la JVM. Et là, on a littéralement Node.js sur la JVM. Et donc ils veulent refaire ce qu'ils ont fait avec Torqbox, c'est-à-dire offrir du support Ruby sur la JVM, donc avec JRuby, et offrir des API, exposer en natif Node.js des choses que on a traditionnellement dans des serveurs d'applications, genre des transactions, des choses comme ça.
Attends, donc, mais j'ai pas compris. Alors, Vertex et Nodine, alors c'est il y en a un qui remplace l'autre ou pas alors? Non.
T'en as un où c'est la notion de event-based programming, quoi. Donc ils sont dans cette catégorie-là, asynchrone, tout ce que tu veux là. Et Node.js, il y a des API spécifiques avec un écosystème spécifique, et donc Nodine en fait s'appuie là-dessus, alors que Vertex a sa propre communauté, son
d'accord,
propre truc
d'accord.
spécifique.
D'accord.
S'ils cherchent un nom de projet connexe, ils peuvent l'appeler Morano, Nodine Morano. Pardon.
Je ne sais pas comment réagir là.
Comment rebondir derrière? Qu'est-ce qu'on va se trouver?
C'est ça. Spring Boot, voilà.
Bah justement, il y a un petit tutoriel en français là qui est sympa sur Spring Boot. Et
s'il veut une extension, il peut utiliser Spring Bootin aussi, tu vois.
Oh, pas mal, vous faites très très fort, les mecs.
Il y a du niveau là. Ça se voit que c'est la rentrée.
Et juste.
Je crois que Vincent est parti en fait.
On l'a perdu.
Non, il fait la release d'X-Wiki.
Ah, je suis là.
Et donc il est pas mal, il explique comment démarrer avec Spring Boot, comment t'as pas besoin de faire une seule ligne de XML pour faire du Spring et tout ça. J'ai trouvé plutôt pas mal ce petit tutoriel, donc si Spring Boot vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ce tutoriel là.
Enfin, tu fais pas ligne de XML, mais tu fais du ligne de Gradle, alors
de Gradle
tu fais quand même de la config, quoi.
De la config, de toute façon.
Mais pas beaucoup.
Ne parlez pas de config.
Non, mais je veux dire, c'est que, comme dire sur un projet Java, tu fais du Maven, quoi. À part que là, t'as pas de, c'est quoi vos fichiers de conf XML à la noix qu'on est toujours obligé de se fader en Java EE, là? Ceux-là, vous les avez pas, avec Spring et Spring Boot.
Ouais, mais on n'en a plus beaucoup, dans Java EE.
Ouais, mais t'as toujours le bins XML, même si t'as aucun bins de l'an, et puis je sais plus trop quoi.
Mais c'est terminé, il y a plus Java 7, c'est terminé, tout ça.
Mais bon, ça va pas aussi loin que le Java Config, de toute façon, donc il en reste quand même.
Java Config, c'était pour remplacer ça exactement, je crois.
Il y a plusieurs choses, c'était pour la persistance, il y avait pour les bins, il y a pour manage ou pas.
Ouais.
Mais après.
Non, maintenant, aujourd'hui, avec Java E7, le seul XML obligatoire, c'est le persistance XML.
Même s'il peut être vide, c'est ça?
Et voilà.
Il est jamais vide.
Et une des propositions dans Java E8, c'est que comme on a une data source par défaut, avoir un entity manager par défaut, et donc, effectivement, ne plus avoir aucune ligne d'XML. Java config, ça allait un peu plus loin parce que c'est bien sûr en override tout ça, on override un bout du web XML, du bin XML, du persistance XML, mais c'est aussi dans ton propre code Java. Lorsque tu utilises un taux 4,12, et tu veux externaliser ce 4,12, l'idée de la spécification, c'était de dire, vous l'injectez. Et donc, tu mets à l'extérieur.
Tu l'injectes tout, je pense, et puis c'est bon.
Non, c'était à l'extérieur, avoir de l'XML qui dit, le taux c'est 4,12, et dans ton code Java, tu fais juste un inject. Mais bon, voilà.
D'accord.
D'accord. Tiens, en parlant de, parce qu'on a parlé un petit peu de sécurité avant, et là tu reparles de XML. J'ai fait un podcast avec l'équipe sécurité des produits chez Red Hat, notamment sur le middleware. Il va sortir incessamment sous peu, genre aujourd'hui ou lundi ou un truc comme ça, sur Asylum, asylym.jboss.org. Et c'est intéressant de nous expliquer certaines failles de sécurité sur le XML qui font un peu peur en fait. Par exemple, un XML peut avoir des entités dedans. Et alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, une entité peut techniquement pointer vers un fichier local. Et donc, si tu as une appli sur laquelle tu peux donner du XML à l'application, l'application techniquement, enfin le gars qui crée le XML, il pourrait rajouter une entité genre va sur je sais pas /etc/config ou /password, et puis toi mettons tu génères un PDF à partir de ce fichier XML et paf tu l'as affiché dans le PDF, le mec il a récupéré tes mots de passe par exemple. Donc ça c'est un exemple dans le XML. Il y avait d'autres exemples. On a discuté un peu de certaines failles de sécurité intéressantes chez JBoss parce que c'est là qu'il connaissait, mais là en l'occurrence le XML c'est assez générique et ça fait peur en fait. Hein. On n'est vraiment pas du tout câblé sécurité en tant qu'industrie. Et quand tu développes, tu te dis faut que je pense à tellement de choses que tu n'y arrives pas.
Oh là, moi je me suis acheté un petit gadget là, j'ai le Pulse,
un cadenas
de Withings. Donc c'est un le Withings, vous savez, c'est un petit truc là, on le met sur nous et il compte le nombre de pas. Bref. Et je me suis acheté ce gadget là et j'étais en train de lire un peu à droite à gauche ce qu'il fait pas. Et en fait, je suis tombé sur un article qui disait que le Internet of Things, les boîtes là, release 4 gadgets par jour, mais en termes de sécurité des données, c'est zéro pointé quoi. Donc apparemment, c'est chaque boîte se lance sur la nouvelle montre, le nouveau gadget, le nouveau bidule, mais en sécurité, c'est zéro.
Ouais. Ils commencent à travailler sur des standards, mais par exemple, tu sais les lampes que tu mets, que tu peux commander via Wi-Fi, etc. Ben en fait, elles ont. C'est assez facile de regarder comment ils ont hardcodé en gros leur clé de cryptage, et ensuite tu te fais passer pour une lampe et hop, tu rejoins le réseau parce qu'en fait, elles peuvent se passer le mot de passe sans que tu aies explicitement à l'écrire, je crois, un truc comme ça. Et paf, ça y est, t'es sur le réseau du mec.
Enfin, il y a plein exemple, de trucs hallucinants. Si tu te fais passer pour un lampadaire, tu risques d'avoir ton chat qui va te pisser dessus aussi.
C'est pas pour ça que ce sera une lumière. Hein.
Oh, papa.
Pas mal.
Wow, le niveau monte. Attends.
Voilà. Bon, on va passer au cloud. Il y a quelqu'un qui a écrit un article sur comment mettre OpenShift dans une, de le faire tourner dans une machine virtuelle, genre VMware ou ce que vous voulez. C'est un truc que Cloud Foundry a fait depuis longtemps, mais voilà, donc ça c'était intéressant pour les gens qui sont plutôt côté OpenShift. Et puis les gens de Google, notamment l'équipe BigQuery, a mis à disposition la plus grosse base de données événements au monde et vous laisse exécuter des requêtes dessus et de faire des choses. Donc un article explique tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, ce qu'ils pouvaient pas faire avant et qu'ils sont super contents les chercheurs.
Je sais pas si on en avait parlé aussi avant de Kubernetes, ou je sais pas comment on dit en anglais, on le prononce.
Google Kubernetes.
Kubernetes, t'appelles ça comment, ouais. Kubernetes?
Je crois, ouais.
Ouais. Je crois qu'on en avait pas parlé la dernière fois, mais c'est assez récent là. Donc, on voit de plus en plus quand même de support Docker au travers de toutes les offres IaaS, PaaS, etc. On voit vraiment que Docker est vraiment gros quoi.
Donc Kubernetes, c'est la coordination de, c'est l'or, le,
ouais,
c'est
l'organisation du, des containers.
Comment on appelle ça? Voilà, c'est ça. C'est genre gérer une flotte de containers à travers des machines et des choses comme ça.
Parce qu'il faut bien orchestrer tout ça, les containers.
Voilà,
c'est
l'orchestration,
gentil,
c'est ce mot que je cherchais. Ouais. Et puis pour faire chanter des containers, il y a du boulot, quoi. Bon. Tout le monde réussit, c'est vrai.
Ouais, je crois.
Voilà, sinon dans le mobile, il y a RoboVM 1.0.0.0.0.1 qui est sorti.
Donc c'est la...
Et alors, c'est quoi?
Alors, RoboVM, c'est le petit projet qui permet en fait de faire tourner, par exemple, du Java sur iOS. Donc, si vous voulez faire du Java ou même du Groovy, il y a un mec là qui s'amuse à faire un petit proof of concept montrant un Hello World en Groovy sur un iPad. Donc c'est assez rigolo. Après, je sais pas jusqu'où ça va et peut aller au niveau support, tu sais, par rapport à d'autres approches type comment ça s'appelle déjà, Cordoba là, et Titanium et compagnie.
Et du coup, ça transforme ton Java en code natif pour pas te faire engueuler par Apple, c'est ça?
Ouais, et puis ça émule aussi, je crois, les API du JDK. Donc, du genre, je sais pas si tu utilises une string ou tu utilises. Enfin, là, j'ai pas regardé de près, mais je sais pas, une date, ça émule et ça fonctionne comme ça devrait fonctionner en Java, quoi.
D'accord.
Mais j'ai pas beaucoup regardé de près. Hein. Je trouve ça assez fun. Après, je sais pas si c'est vraiment applicable. Dans la vraie vie.
Ouais. Faudrait qu'on se refasse une interview mobile.
Ouais. Parce qu'on n'est pas non plus des experts, mais on est plus côté serveur, back-end, etc. que mobile.
Voilà, sinon on va passer aux outillages où il y en a pas mal. D'abord, il y a Git 2.1 qui est sorti. Alors bon, ça va pas vous faire sauter au plafond, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est qu'Atlassian, un monsieur qui s'appelle Tim Peterson, a fait un résumé assez sympa et lisible, donc dans un blog, et c'est le lien que j'ai mis. Donc notamment, il y a des défauts meilleurs pour la pagination. Vous savez, quand vous faites git log, en fait, il affiche le début et puis après, vous continuez. Avant, en fait, une ligne passait en gros au-delà de votre écran et puis vous la voyez plus. Je crois que là, maintenant, ça passe à la ligne, ce qui fait que vous pouvez voir la totalité de l'info. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a de la complétion bash même pour les commandes à la main qu'on a fait, parce que vous savez, git, on peut faire des git ma propre commande. Et comment on fait ça? Bah en fait, on crée un fichier qui s'appelle git-ma propre commande, et puis on le compose à partir d'autres commandes git. Et en fait, visiblement, ils sont plus intelligents dans la bash complétion pour pouvoir, quand ils peuvent, essayer de faire l'autocomplétion sur votre commande magique, j'imagine en regardant ben, comment vous utilisez les paramètres. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un truc qui s'appelle git replace, j'ai rien compris. Je sais pas du tout à quoi ça sert, j'ai rien capté. Sinon, au niveau des tags, vous savez, les tags, ils sont ordonnés, je sais même pas comment ils sont ordonnés, mais maintenant, visiblement, ils ont des algos pour l'ordonner par numéro de version, donc, que la, idéalement, la 10.12 arrive après, après la 10, la 10.2, par exemple, ce genre de choses. C'est plus rapide, mais bon, c'était déjà super rapide, donc on s'en fiche. Voilà, enfin il y a d'autres choses, hein, je vous encourage à lire l'article.
J'ai rajouté un autre article qui a été écrit par un Frenchie
en anglais.
Mais en anglais, donc je sais pas s'il fera, des fois il fait ses articles dans les deux langues, donc je sais pas si une version française sortira ou pas. Christophe Porteneuve, et où lui il a listé, en fait justement il a profité de la sortie de la 2.1 pour refaire en fait une liste un peu de toutes les features intéressantes, hein, et utiles qui étaient sorties depuis quasiment la 1.7, je crois, depuis OS 7, ouais, la 1.7. Ouais. Et donc moi il y a des trucs marrants, parce qu'il y a même des trucs que j'ai découvert, je savais même pas qu'ils existaient sur Git, alors je ne saurais plus lesquels, mais je sais qu'il y avait des options, des trucs sur des rebases et machin qui ont été rajoutés, qui en fait sont utiles, mais voilà, qui ont été rajoutés au fur et à mesure. Et c'est vrai que vu leur versionning un peu, on va dire, à la con, où des fois ils rajoutent des trucs utiles dans des versions mineures et des fois ils font rien dans les versions majeures, on s'y perd un peu, et donc ouais, c'est une bonne lecture franchement pour redécouvrir des fois certaines fonctionnalités de Git qui sont apparues non pas dans la 2.1 mais dans les versions même précédentes. Voilà.
Ok, bah merci à Christopher Portnoy. Voilà, sinon on va parler un petit peu de ASCII Doctor. Il y a une startup qui s'appelle gitbook.io qui vous permet, en gros, vous écrivez votre livre en ASCII Doc, vous pushez vos chapitres dans Git, et ils sont que Markdown pour l'instant, mais ils veulent faire le support ASCII Doc assez vite, et eux, ils vous génèrent le livre pour... en PDF, en EPUB, en MOBI, vous permet de le vendre, de le pousser sur les Kindle, les Nook et les choses comme ça. Et donc j'ai trouvé ça.
Ça me semble pas mal comme
ça,
truc.
C'est pas mal.
C'est une très très bonne idée.
Intéressant, c'est une bonne idée, voilà.
Dès que la ASCII Doc sera supportée, effectivement, moi je peux, avec Nicolas, on peut pouvoir pousser notre livre là qu'on avait mis sur GitHub pour l'instant et qu'on avait commencé à convertir en ASCII Doctor. C'est clair que c'est.
Ouais.
C'est intéressant comme. Parce que c'est bien chiant à faire, ce connerie de transfo et de publication.
Ouais. Et puis non, mais puis après t'as aussi le distribuer, le monétiser, c'est-à-dire le publier sur le Amazon, je sais pas quoi, leur truc de vente. Et donc ça c'est toujours un peu chiant, le ebook chez Apple, voilà. Ouais. Donc s'ils font tout ça pour toi, c'est intéressant, même s'ils prennent 20% de du prix du bouquin.
Si je le fais gratuit, ils prendront 20% de gratuit, ce sera pas mal ça. Peut-être.
Ouais.
Pas sûr que ça marche, tiens. Bizarre.
Voilà, sinon Maven 3.2.3 est sorti.
Ouyouyou, super.
Et pourquoi?
Oui, parce que la 2.2 était buggée, c'est Varno qui me l'a dit.
La 3.2.2, ouais, la 3.2.2 était buggée. Bon, après, fallait utiliser, c'est pour ceux qui utilisent les imports de POM, donc ce qu'on appelle souvent les BOM dans pas mal d'endroits, où il y avait des imports, et donc ça marchait pas de manière récursive, donc la 3.2.3 fixe ce problème-là, qui était assez chiant. Et
c'est bon, je suis sur la 3.1.1.
Et ça marchait là, c'est ça. Et 3.2.3 et quoi d'autre? Et surtout le passage en HTTPS pour centrale par défaut, puisque il y avait eu encore donc un blog post qui était arrivé. Bon, ça fait des années hein, que centrale est en HTTP et non pas HTTPS pour des problèmes qui étaient à la fois bon, des problèmes de coûts et de et d'infrastructures à mettre en place, parce que bon, avoir des CDN en HTTPS etc, c'était un peu plus chiant pour Sonatype qui gérait ça, et donc là bon, ils ont enfin mis le service en HTTPS pour tout le monde de Maven Central, et donc Maven a été reconfiguré pour utiliser le service en HTTPS, puisque pour éviter bah tout ce qui est man in the middle, et imaginez quelqu'un qui aille vous injecter des faux jars ou des jars corrompus ou traficotés en se mettant entre vous et Central, voilà. Donc là, HTTPS aide un petit peu, mais pareil, c'est vu qu'il y a encore plein d'autres trucs à améliorer dans Maven ou même dans tous les autres trucs pour que ça soit vraiment sécurisé, puisque bah après, même les checksums, etc., généralement, on met des warnings, mais on les contrôle même pas, pour on force pas le contrôle ni rien, donc bon, encore beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dessus.
Ouais. Sinon, Asky Doctor passe de la version 0.1.4 à la 1.5. Paf.
Bientôt la version 15.
Ouais, c'est ça. Ils font comme Chrome 16. Tout d'un coup. Bah tiens, on passe 37. À la 37. Bon d'accord. Okay.
Bon, il y a plein de trucs, notamment le support PDF qui est vraiment pas loin, enfin qui est dans un module séparé aujourd'hui, mais je sais pas s'il va pas même l'intégrer dans les futures versions. Le début du support EPUB pour générer en EPUB, mais aussi en .mobi ou .wz, je sais pas lequel il utilise. Donc on parlait des livres, les générer, donc là ça s'approche. Par contre, ils ont fait des évolutions de syntaxe pour se rapprocher un petit peu de Markdown et pour rendre les règles ASCII-DOC un petit peu plus cohérentes. C'est quand même assez compliqué, il y a la notion de pass-through où il n'y a pas d'opération entre vos chose que vous mettez, par exemple, je vais dire une bêtise, mais entre quotes, et puis il y a le même opérateur qui permet quand même d'avoir d'autres opérateurs à l'intérieur, et donc tout ça c'était quand même assez compliqué, pas forcément, enfin ça reste compliqué, mais ce qui est pas forcément très très logique. Donc c'était, ils ont décidé de faire une évolution, ce qui fait qu'il y a peut-être des choses qui s'affichaient en italique et qui vont plus s'afficher en italique, qui vont s'afficher différemment chez vous, donc regardez bien. Les migrations et puis vérifier que enfin vous avez un mode qui vous permet de d'avoir la compatibilité avec la version ancienne où vous rajoutez un des attributs en début de paragraphe. Donc voilà, c'est intéressant. Sinon voilà, il y a des diagrammes, il y a des trucs de maths, voilà, il y a pas mal de choses qui sont rajoutées. Il y a aussi ASCII Doctor J, qui est en gros l'API Java pour utiliser ASCII Doctor, qui est utilisé, je pense, dans les plugins Gradle et Maven.
Ouais.
Vous avez bossé, vous avez aidé, soit en termes de fonctionnalités dont vous aviez besoin, soit en termes de code.
Bah, pas en termes de code, parce que moi je me vois mal coder en Ruby, je suis pas un ninja du Ruby. Mais en tout cas, oui, par exemple, les histoires d'include de fichiers, par exemple, où le TOC final, la table des matières, est complètement foirée. Alors il y a encore des bugs, je crois. Donc on a proposé une notion de level offset, ça s'appelle, cette option de manière relative, pour qu'on puisse vraiment imbriquer des documents les uns dans les autres, pour faire une documentation un peu plus modulaire, plutôt que d'avoir tout dans un seul et même fichier. Et puis il y a
ça, donc avant on pouvait dire je veux que ça s'avance d'un niveau,
ouais.
Et là visiblement c'est relatif au lieu d'être absolu,
ouais,
c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais. Et donc ça
c'est quand tu embeds des embeds, en fait.
Bah ouais, ouais. Et puis nous, typiquement, bah pour la doc de Groovy, il y a des fois des sujets qui vont être courts, donc tu fais juste un include, mais si c'est un gros sujet, tu vas faire un include, et dans celui-là tu vas faire 2-3 include, et ça marchait pas bien du tout. Et puis je pense qu'il y a encore quelques bugs, même dans le, parce que j'ai vu quelqu'un, j'ai pas encore bien testé, mais j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il y avait un problème encore avec les level offset, même en relatif. Et il y a une autre chose aussi, moi, dont j'avais besoin, et que Dan Allen a implémenté, c'est par exemple de pouvoir sélectionner une partie à inclure. Donc par exemple, nous, dans la documentation de Groovy, c'est ce que j'appelle une documentation exécutable, c'est-à-dire que tous les tests, tous les bouts de code que tu vois dans la documentation, en fait ça vient de tests unitaires quelque part, donc on prend juste les bouts de code, et en fait on peut inclure un fichier en entier, mais on peut aussi inclure par numéro de ligne. Mais numéro de ligne, genre, à un moment, tu oublies, tu mets à jour le test, tu rajoutes une ligne, bah, ton include est complètement décalé, c'est complètement foireux. Donc, par exemple, il nous avait rajouté pour nous une notion de tag où tu peux avoir des tags pour dire, voilà, je veux inclure... Enfin, cette partie-là...
Tu mets un commentaire tag begin et tag end, et après, il dit...
Et comme ça, il sait, bah voilà, inclus-moi ce truc-là. Comme ça, même si le code évolue, bah, t'as toujours...
Il a rajouté ça dans le langage ?
Et en fait, c'est une des options d'include, donc c'est un attribut en plus. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas supporté par ASCII Doctor.
Je ne sais pas ce que tu appelles le langage, mais c'est des...
Dans l'aspect du langage.
Parce qu'il n'y a pas de
notion. Il n'y a pas de notion d'include. De plugin ou d'extension point.
Si, il y a aussi des extensions, mais ça, je pense, ça fait partie des extensions, même si c'est codé en dur. Parce que c'est une syntaxe.
Une extension codée en dur.
Bah, dans le sens où la syntaxe, c'est la même syntaxe que pour d'autres macros existantes, si tu veux. C'est pas une syntaxe particulière.
Il n'y a pas une syntaxe d'extension point.
Il n'y a pas de syntaxe pour les extension point. Si tu veux, tu peux créer. Ou peut-être qu'on se comprend mal là, je pense. Il y a une API pour faire des extensions. Et quand tu veux intégrer ta macro, ton extension ou quoi, t'as une syntaxe commune à toutes les extensions.
Si oui, mais imagine que je réécrive un parseur. Imagine que j'écrive un parseur.
Oui.
Si tu m'inventes un nouveau truc, je vais pas pouvoir le reconnaître. Tu comprends? Donc il faut que tu aies une grammaire bien définie pour dire là n'importe qui peut me rajouter des trucs. Et ce côté, moi, je comprends le format général, mais c'est une boîte noire et l'intérieur, je le comprends pas.
Ouais, ouais. Donc, si tu veux, la syntaxe est générale, mais après, et si t'as pas le jar du plugin ou je ne sais quoi, ou ta macro en XWiki, c'est pareil. Je veux dire, t'as beau avoir un parseur et le langage est peut-être bien spécifié, mais néanmoins, qu'est-ce que t'en fais de ton code qui a été marqué avec telle macro, tu vois? Donc c'est un peu le même problème. Et donc il y a une syntaxe bien.
Ah bah c'est différent. C'est que ça n'a rien à voir. Non, enfin, bon, on va pas rentrer dedans, mais ça.
Non, mais je pense que c'est pareil. Ou alors on sait qu'on se comprend pas.
Okay. Donc il y a une certaine spécificité.
Je crois pas qu'il ait vraiment bossé pour rendre.
Moi le souci que j'ai avec ASCII
Doctor, séparer l'aspect de l'implément.
Ouais, moi le souci que j'ai avec ASCII Doctor, c'est que j'ai l'impression que c'est fait, que c'est mal codé en fait. Enfin de l'extérieur, ça donne ce sentiment-là, c'est un sentiment d'avoir été fait de manière empirique et d'avoir été rajouté avec des glues et des glues et des verrues. Par exemple, il est en train de regarder seulement maintenant d'avoir un modèle pour exposer les différents événements qui se passent à l'intérieur, donc pour pouvoir rajouter des extensions, etc. Et il les rajoute un par un, et quand je regarde les docs, tu te dis, tiens, c'est un truc qui a été pensé après.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est juste dommage, parce qu'il y a tellement d'intérêt, sur ASCII Doctor que ça va devenir un truc super utilisé, et voilà, j'ai juste peur que ce soit...
Mais je pense que là, on l'a pas mentionné, parce qu'on en parle dans la section sur divers, mais donc il y a, comment il s'appelle, Coding Horror, Jeff Atwood, qui a enfin réalisé avec d'autres personnes la spec de Markdown. Donc on espère qu'il sera la spec auprès desquels tous les moteurs Markdown essaieront d'être compatibles avec, etc. Je pense que ça va aussi encourager Dan Allen avec ASCII Doctor à standardiser ce qu'il appelle Unidoc et pas juste ASCII Doc. Déjà parce que ASCII Doc, on pourrait croire que c'est que de l'ASCII, alors que dans Uni c'est universel, Unicode, etc. Donc je pense que ça va l'encourager à aller plus vers une vraie spec plutôt que simplement par une implémentation
de référence,
empirique, pragmatique de référence. Ouais.
Ils sont en train de bosser sur une spec Markdown,
oui.
C'est ça?
Oui, oui, oui. Ouais. Ça fait un moment.
Tiens,
ça
d'accord.
Ça fait 4 ans que Jeff Atwood avait sorti un blog post qu'on avait déjà mentionné dans le
podcast. Bien sûr, mais le problème, Antonio, mais c'était resté au niveau blog.
Le problème, c'est qu'il bosse dessus, mais il faut que les autres là, y adhèrent.
Ah bah oui.
Il y a les gros... les gros utilisateurs Markdown, genre GitHub, Discourse, Stack Overflow, etc., qui sont mis ensemble. Donc, il y a un poids, pas zéro, mais on verra,
Après, je suis curieux de voir
tous les gens qui ont
écrit
les extensions, on verra.
Les extensions, les tables et tout ça. Parce que ce qui est moche en ASCII Doctor, c'est le fait de pouvoir inclure n'importe quel bout d'HTML, au lieu d'avoir...
En Markdown,
J'ai dit quoi? Oui, pardon, en Markdown. Au lieu d'avoir une vraie syntaxe, wiki pour faire des tables, par exemple, tu vois.
Ouais.
Donc à voir comment ça évolue et si c'est dans le bon sens ou pas.
Ouais. Donc on va passer à la catégorie humain. Il y avait un post sur « Ne faites pas ce que vous aimez » en fait. Mais si je résume, c'est intéressant à lire parce que c'est une expérience de quelqu'un. Sa passion c'était faire des... Qu'on appelle ça ?
Des comics books, des BD.
des BD quoi. Et évidemment bah bon bah tu fais pas d'argent trop dans le BD en moyenne quoi. Et du coup elle est devenue elle est devenue développeuse et évidemment alors elle aime bien hein, mais c'est pas sa passion mais en même temps elle a plein d'argent. Donc elle explique bah voilà, c'est gentil de les gens qui disent fais ce que tu adores et l'argent viendra mais en fait c'est pas vrai, faut quand même regarder l'univers dans lequel ta passion est et quel débouchés peuvent en sortir. Alors nous on a de la chance puisque nous c'est quand même aujourd'hui vachement porteur, mais c'est pas le cas de tous les univers.
C'est vrai que Maréchal Ferrand en 2014 c'est pas facile.
L'Oregon, l'État de l'Oregon, donc aux États-Unis, fait un procès à Oracle qui dit qu'en gros il a complètement enflé quand il a aidé de manière poussée à implémenter le fameux Obamacare, le site web où les gens pouvaient s'inscrire pour accepter les, comment on appelle ça, c'est la, en gros la sécu universelle pour les gens quoi. Et voilà, donc ils ont lancé un énorme procès sur Oracle. Oracle évidemment qui dit mais non, c'est vous qui êtes des bras cassés, c'est pour ça que ça a pas marché. Donc voilà, c'est un débat intéressant. 240 millions, ils ont dépensé 240 millions et le système a jamais marché. Hein. Donc c'est intéressant.
Il y a d'autres projets même en France hein, qui finissent pareil.
Oui, hein. Ouais, mais ils font pas de procès.
Le paiement des militaires.
Ils sont peut-être plus discrets, les procès.
Ouais,
surtout,
le paiement
je pense,
des militaires, ça avait été un truc.
Il y a des procès quand même qui se passent des fois, mais ils sont plus discrets en tout cas.
Il y a quelques procès entre des grosses boîtes et des SS2I,
mais c'est plus discret. On n'entend pas obligatoirement parler.
Mais là, c'est pas la SS2I, parce que la SS2I, vraiment, elle fait ton projet. Là, Oracle était quand même fournisseur de techno, plus conseil. Alors, c'est là où c'était un peu flou.
Ça change. Et que nous, en France, je vois pas trop comment tirer à attaquer. Enfin, si, tu peux attaquer quand même l'éditeur, mais c'est pas, enfin, ouais.
Ouais. C'est quoi l'article sur pourquoi est-ce que vous finissez par jamais embaucher les meilleurs, les bons développeurs ?
Ah, celui-là était pas mal. Je l'ai lu il y a quelques semaines. C'est un gars qui explique. Bon, alors il dit voilà, il explique qu'il est, certainement pas le meilleur des gars pour faire des entretiens d'embauche, etc. Mais en gros, il fait quand même part de son expérience et il explique toutes les bonnes ou mauvaises pratiques qu'il a rencontrées sur comment faire des entretiens d'embauche pour expliquer que en fait, c'est super compliqué, d'embaucher des bons développeurs. Et il remet en question, pas mal de choses qui sont, essayer de faire bosser le mec, dans du stress en lui faisant faire un exercice théorique sur un tableau, ou en faisant même en le faisant percoder ou quoi que ce soit, pour dire que, finalement, est-ce que ça représente vraiment ce qu'il fera demain dans votre entreprise? Pas sûr. Donc ça vous donne juste ça vous fait perdre beaucoup de temps pour pas grand chose. Enfin, il y a pas mal de clés où effectivement il essaye un peu de déconstruire ce qui est fait d'une manière générale dans les entretiens d'embauche de développeurs et pour essayer de rendre ça un peu plus humain et puis au final de se dire surtout si vous avez un mauvais pressentiment etc ne le faites pas, prenez vraiment que les gens qui vous inspirent et les gens qui ont vraiment un feeling avec vous et voilà. Donc
alors là tu viens de donner une crise cardiaque à toutes les ressources humaines
clairement,
qui veulent éviter des procès pour discrimination là.
C'est ça. Mais clairement, c'est ça, hein. C'est assez intéressant cet article parce que justement, ça me fait penser, comme beaucoup, j'ai eu des entretiens d'embauche et il y a beaucoup de trucs où effectivement, on se dit, quel est l'intérêt de faire tel ou tel test? Enfin, il y a plein de trucs, ou même sur le CV, sur l'expérience du CV ou l'expérience de ce que tu mets en open source et tout ça. Voilà, il y a pas mal de sujets comme ça qui sont abordés et où ils donnent finalement une vision un peu plus longue, long terme sur la chose. Et sur l'importance qu'on peut avoir à ces faits-là qui sont pas très très intéressants pour embaucher finalement le développeur.
D'accord. Voilà, dans la catégorie divers, on va juste en parler très vite. Il y a quelqu'un qui a fait une image qui explique comment sont faits les fichiers zip en fait. Et donc avec le header, qu'est-ce qu'il y a dedans, ensuite les textes mêmes, etc., etc. Ça c'était intéressant, c'était marrant à regarder. Il y a un gars qui a fait un résumé des fonctions de hash qui ne sont pas des fonctions cryptographiques, mais genre CRC2, le murmure, etc.
R2,
etc.
D2,
non pas R2, D2, SHA1, ce genre de choses. Donc il explique les performances, leurs caractéristiques, etc. Donc ça c'est marrant. Un gars c'est pas nouveau, mais qui explique comment est-ce qu'on peut prévoir la valeur prochaine d'un mat.random en Java en ayant une valeur, en essayant de retrouver la valeur d'avant et la valeur seed en gros. Et puis après de pousser vers pour repartir dans le futur et anticiper les choses. Pour rappel, faut que vous utilisiez, je crois que c'est secure random, qui est la version cryptographiquement saine. Donc si vous voulez un chiffre aléatoire, c'est bon. Si vous voulez un chiffre aléatoire qui ne doit pas être deviné par d'autres gens, vous n'utilisez pas mat.random.
C'est marrant parce qu'il y a un ancien de Sun, lorsqu'il y a eu le rachat Sun Oracle, un mec, je me souviens plus de son nom, un français, il s'est barré et il a monté une boîte, il a monté une start-up et son business, c'est vous fournir des nombres aléatoires. Quand même marrant. Donc il utilise de la physique, des fréquences, etc., etc. Enfin, c'est un truc et c'est utilisé dans le monde de l'industrie, les satellites, les avions. Donc le random, apparemment, il y en a qui payent cher pour avoir des nombres aléatoires.
Du vrai random, oui. Bah le pseudo random, c'est qu'une fonction mathématique. Après, c'est l'acide qui rentre dedans, qui est importante, et après il faut qu'effectivement ta méthode de random elle soit pas trop craquable pour revenir en arrière et après deviner la seed initiale. Prédictabilité quoi. Sinon il y a Ninja Squad, nos amis lyonnais qui ont écrit un livre sur AngularJS. C'est un ebook en donationware avec une proportion donnée à une association qui s'appelle Docteur Souris. Pas de DRM, c'est un ebook, allez voir, je me rappelle plus.
Acheter sans modération, il a l'air sympa.
Acheter sans modération. Tu l'as acheté ?
Ouais, je l'ai acheté, ouais.
D'accord. Tu l'as pas lu ?
Non, j'ai pas encore lu, je l'ai juste parcouru assez rapidement.
T'as payé combien ?
Hein ? J'ai mis, combien c'était ? Je crois que par défaut, ils mettent 10 euros, j'ai mis 10 euros. Puis j'ai dit moitié pour l'association et moitié pour eux. Ouais.
Tiens, Antonio, tu vas pleurer. Ils ont dit en 24 heures, on a eu, 1000 visites, je crois, 100 personnes qui ont acheté, et je crois qu'ils étaient à 1000 euros de revenus, dont 300 pour l'association.
Ce que je gagne en 2 ans. Voilà. De toute façon, c'est sûr que mon prochain livre, Java EE 8, s'il y en a un, ça sera avec un guidebook ou un truc comme ça, je le vendrai 5 euros et puis voilà, pas me prendre la tête avec des Apress ou des Aurélie. Bref.
Très rapidement, l'article sur les API fluides Java.
Ouais, c'est moi qui ai rajouté ça. Donc, c'est aussi un peu les bonnes pratiques, comment on fait une API fluente ou fluide en Java, l'utilisation des end pour finir une chaîne, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Voilà, ça explique un petit peu comment ça se fait. C'est assez rapide à lire.
D'accord. Y a quelqu'un qui explique qu'est-ce qui fait un bon changelog,
pourquoi c'est utile, c'est-à-dire pour que les gens sachent qu'il y a eu des breaking changes, quelles sont les nouveautés, plutôt que de faire une liste de d'Ishu Jira ou plutôt que de faire une liste de commits où tu as du genre fixe, typo et compagnie. Si tu veux faire un bon changelog, c'est important pour un projet, en particulier un projet open source. Et aussi, donc l'article est intéressant, mais en plus je crois que cette personne la cherche à faire une sorte de standard du changelog avec un format basé sur du markdown, pour que tout le monde utilise ça et pour que ce soit parsable, etc. Donc il y a quelques bons conseils.
Donc c'est pas du markdown, mais il y a Vincent qui se propose de vous montrer
des
bons changelogs dans XWiki.
Ouais.
Il y a un générateur de...
Ouais, si tu veux des beaux, des jolis prompts PS1 dans ton terminal, t'as une petite page web avec du drag and drop pour créer son propre prompt. Donc tu mets ton nom d'user, ton directory, la date et l'heure, en couleur, en gras, en comme tu veux.
Tu peux mettre la couleur. Comment tu mets la couleur?
Bah avec les codes. Comment ça s'appelle déjà les codes?
Ah ouais, non mais je veux dire comment tu fais graphiquement.
D'escaping. Ah bah en fait une fois que tu as choisi ton étiquette, voilà, je veux afficher la date par exemple. Tu cliques dessus, tu peux choisir la couleur et gras ou pas. Et donc je me suis customisé mon prompt.
Ah oui, d'accord, ça y est, je vois.
Je suis customisé mon prompt.
Il est vraiment pas mal ce site, ouais.
Après bon, ce qui il va pas te mettre par exemple ta branche Git sur laquelle tu es, etc. Après il y a d'autres trucs plus avancés que ça, mais là c'est vraiment juste pour un prompt assez simple, quoi. Voilà. Mais ouais. C'était assez sympa. Voilà.
Sinon il y a
le fame,
c'est quoi XKCD?
XKCD, tu sais, c'est les petits comics qu'on voit. Je sais pas si c'est tous les jours là d'ailleurs.
Et non, c'est pas tous les jours.
C'est donc Comic Strip et compagnie, tu sais, les petits, ouais, les blagues XKCD. Et donc apparemment ils en ont fait un livre. Et là le XKCD de ce jour-là que j'ai mis dans les liens, en fait tu peux zoomer. Tu peux zoomer à fond, tu peux zoomer à l'infini et tu vois,
l'image.
Ouais, j'ai sorti le livre, tu peux zoomer à l'infini, donc ça c'est rigolo.
Alors moi j'ai pas réussi à le faire marcher sur mon Safari par contre, ça marchait sur Chrome, mais sur Safari.
Chrome ça a l'air de marcher, ouais.
Moi ça marche sur Safari.
Mais, ah bon, j'ai peut-être pas la même version, mais ouais,
moi, ça marche. Double piquant, ça marche aussi, ça fait un peu fractal, ouais.
Ouais, ouais,
c'est ça. Good. Donc l'aspect Markdown, on en a parlé. Il y aura le lien dans les show notes.
Là, il y a GitHub qui rajoute le split diff. Donc au lieu de faire des plus et des moins les uns au-dessus des autres, quand on voit les diffs sur GitHub, on peut les voir côte à côte. Comme dans IntelliJ et les IDE modernes. Donc ça, c'est sympa, c'est assez joli. Voilà.
Ouais. Et sinon, il y a un podcast, je crois qu'on appelle ça vidéocast.
C'est des vidéos sur les alors pour les sysadmins, mais en fait on retrouve pas mal de sujets sur comment créer son sur tout un tas de trucs réseau ou hardware ou software, etc. Donc très intéressant, enfin il y a vraiment des sujets intéressants qui sont dedans, c'est en anglais par contre, mais voilà, il y a vraiment des trucs on avait déjà parlé, il y a des intros sur Docker, des intros sur plein de sujets qu'on a déjà discuté, voilà, il y a des intros, ça dure quelques minutes et voilà, en vidéo avec tout.
D'accord.
Ce qu'il faut.
Donc avant de passer au Maintenant le Cambouis, on va faire un résumé des confs payé par Antonio Goncalves du CNAM.
Et vous me retrouverez sur le RERA, la gare Montparnasse et la gare de Lyon, ainsi que le métro de la station des Arts et Métiers. En plus, c'est vrai, et je serai dans le 20 minutes le 26 septembre, apparemment. Bref. Oui, donc, beaucoup de conférences, et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a quelques-unes sur Paris. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a le Angular Europe, là, le NG Europe, la conf Angular qui aura au mois d'octobre à Paris, donc ça c'est plutôt pas mal. Le Jenkins User Meetup à Paris.
Ouais, c'est la semaine prochaine.
Il y a la DroidCon aussi à Paris. Donc c'est une conférence uniquement sur Android. Ah ouais.
Ouais, parce que je vais parler de Groovy et Android.
Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des tas de trucs qui se passent à Paris et en France. Hein. C'est vrai que nous on est parisiens, mais et en France il y a entre autres le DevFest à Nantes, le Bordeaux IO, qui est une conférence qui aura lieu en octobre aussi si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en France? Le Blend Webmix aussi. Il y a Codeur en scène un peu plus tard, au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc il y a des tas de choses qui se passent. Et puis, il y a aussi, pas très très loin, il y a Devox Belgique qui arrive au mois de novembre. Donc, ouais. Il y a pas mal. Ah, puis il y a le Summer Camp aussi.
Ouais,
Summer,
oui. Camp, ouais.
Et le Jog Summer Camp, c'est dans une dizaine de jours. Hein. C'est la semaine prochaine ou celle d'après, je crois. Donc, c'est plutôt pas mal. Il se passe des tas de trucs. C'est très, très bien.
Voilà. Du coup, Antonio va nous quitter.
Oui.
Et il va mettre son truc.
Mon pulse pour aller marcher et faire des pas. Et
pas dans 3 semaines.
C'est barré.
Plus vite que l'air.
Ah ouais, c'est clair.
Il est monté sur son vélo, il est parti.
C'est ça.
Au revoir tout le monde.
Allez, ciao.
Ciao.
Sinon, donc les mains dans le cambouis. En fait, j'ai plein de sujets. Alors, je sais pas si je les fais tous ou si j'en fais qu'un seul. J'ai essayé avec mon équipe. On en a déjà parlé. Donc nous, on est distribués, c'est-à-dire que on est pas du tout dans le même pays. On a aucun dans le même pays. En tout cas, jamais au même physiquement au même endroit. Donc on peut pas se parler de vive voix. Et des gens nous disaient, ouais, c'est possible de faire un hangout. Vous l'allumez toute la journée et ça fait un peu comme un demi. Vous êtes à moitié physiquement au même endroit, vous pouvez appeler la personne pour qu'elle vous donne un conseil, etc., etc. Et on a essayé, et j'avoue que c'est pas mal, en fait. Alors, ça, pour des gens qui sont habitués à travailler chez eux, c'est un petit peu pénible parce que t'es habitué à dire, oh, bah là, je vais m'arrêter, je vais aller sortir le chien, etc. Alors que là, bon, t'as un petit sensation de guilt, hein, comment, je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié. Bref. Une petite sensation où vous dites, ah, mince, peut-être faut que je fais pas. Donc vous avez tendance à rester plus en face de, enfin, de, à votre bureau que vous le feriez naturellement si vous aviez personne en face de votre caméra et de votre micro, mais pour nous ça a été hyper productif. On a pu discuter de choses, même si la personne n'est pas forcément intéressée sur ce sujet-là. Voilà, ça a été utile. Donc ce qu'on va faire nous, c'est de le faire une demi-journée tous les 15 jours et voir comment ça tient. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience.
Ça me paraît une bonne idée. Je pense que le faire tout le temps, ça sert à rien, puisque un des intérêts de travailler à distance, c'est aussi d'être concentré et bien travailler. C'est la raison pour laquelle on travaille aussi chez nous.
Ouais.
Donc tu perds cet avantage-là. En revanche, moi, ce que je fais pas ça comme ça, mais je vais une fois par semaine à Paris pour voir d'autres personnes du bureau de XWiki à Paris.
Donc, ça, c'est pour traser une fois par semaine, c'est autre chose.
Ouais, mais ça fait un peu le même ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est socialiser, se parler une fois par semaine.
Mais nous, c'est resté pas mal technique. Alors du coup, j'étais un peu, c'était un peu un schéma en étoile où les gens me posaient des questions. Mais il n'y a pas eu que ça, mais il y a eu quand même beaucoup ça. Donc, j'imagine Vincent, si tu essayes ça avec ton équipe technique, tu risques
de rien faire, toi.
D'être le mais gars qui va
passe,
parler pendant la moitié du temps.
À Paris, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, je sais que je ne ferai pas une ligne de code. C'est-à-dire, je sais que je ferai que discuter, répondre à des questions, parler avec les gens, etc. Et c'est aussi parce que le reste du temps, on n'est pas là. Si tu faisais ça plus souvent, ça serait peut-être moins sollicitant.
C'est possible. Ouais,
sauf
c'est
que
vrai.
Tu serais dérangé tout le temps, donc effectivement, tu serais pas productif de ton côté. C'est là.
Mais ouais, c'est intéressant ton expérience. Une demi-journée, une journée par semaine, ça peut être intéressant. Je serais curieux d'avoir ton retour sur la durée. Il te faut quand même un environnement calme chez toi. Si t'as un chien qui aboie, les enfants qui pleurent ou je sais pas quoi, c'est pas forcément sympa.
Alors. On a eu le problème parce que quelqu'un était dans un bureau de commercial. Et donc on a beaucoup entendu les commerciaux. Et puis en fait, tu peux muter quelqu'un dans Google Hangout.
Ouais, tu peux. Ouais.
Donc finalement, on s'en est sorti.
Sur la qualité, sur la journée, ça a été bien pour tout le monde.
Ouais, ça a été. Il y en avait un qui était plus pixelisé, mais bon, tu faisais pas ça pour la qualité vidéo. Et puis j'ai partagé mon desktop à un moment, donc il a fallu que je grossisse parce que sinon c'est un petit peu petit, mais c'est tout.
Mais est-ce que la vidéo est importante ou l'audio suffirait? Est-ce que la vidéo a vraiment eu donc un aspect structurant, enfin dans le sens où tu fais plus gaffe à.
Alors. Tous l'ont pas mis, ou en tout cas pas forcément tout le temps. Moi, je me forçais à la mettre parce que je trouve que ça fait une présence d'artefact plus importante que juste la voix.
Ça oblige à t'habiller et pas être en pyjama. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Oblige à t'habiller en haut, en tout cas.
C'est ça. C'est ça.
Donc moi, ça me gêne pas trop d'être devant la caméra. Je sais que quelqu'un était sceptique et puis finalement, ça s'est plutôt bien passé, donc il était content. Voilà. Sinon, quelqu'un disait sur Twitter The Prime Directive, et donc il mettait une photo de Spock, je crois. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Never trust a test that you haven't seen fail.
Ouais.
Il y a plein de gens qui écrivent un test sévère et puis ils s'en vont.
Vaut mieux limite casser ton code pour vérifier que ça plante. C'est le principe TDD. Hein, normalement, t'écris le test qui passe pas et ensuite tu le fais passer.
J'ai du mal à faire avant, mais en revanche, moi aussi, je fais toujours planter en premier.
Je vérifie souvent qu'il plante.
Moi aussi.
Je vérifie bien le cas plante.
Mais en fait, je le fais parce que j'ai pas confiance en moi.
C'est ça, le
Ouais, l'erreur est humaine, on va dire. Mais je pense que, mais c'est vrai que c'est important de bien vérifier que le test plante.
Et sinon, autre retour d'expérience, alors je me suis mis à courir, mais on va pas en parler. sinon, autre retour d'expérience, j'ai fait un face-à-face avec mon équipe et ils m'ont montré leur Kindle. Alors c'était avant la Google Hangout, mais ils m'ont montré leur Kindle et puis je me disais, ouais, encore un nouvel
gadget
à gérer. J'étais pas très chaud et puis j'ai essayé pour cet été parce que je voulais pouvoir lire vraiment déconnecté et j'ai adoré. Ça fait partie de mon processus quotidien. Qu'est-ce que je fais? C'est petit 1, en gros le navigateur est tellement pourri sur le Kindle. Je parle des Kindle papier, hein, pas les Kindle Fire. Voilà. Et donc en fait on lit, il n'y a pas de notification d'interruption, il n'y a pas de Twitter, on n'a pas à se dire tiens, et si je regardais ma page web pour une raison X ou Y, donc ça c'est super. Moi, j'ai pris la version qui s'allume le soir, comme ça, je peux lire au lit même quand Caroline se met à dormir. Les livres, quand je les achète, ils sont poussés instantanément. Donc ça, pour quelqu'un qui a utilisé... Moi, j'avais une liseuse avant où il fallait connecter avec l'USB, etc. C'est pas très pénible, hein, mais ça fait une petite différence quand même. Dès que tu lis à un endroit jusqu'à la page 13, eh ben je peux reprendre sur mon téléphone parce que je m'en vais à Paris pour une raison Y et lire quelques pages sur le téléphone avec l'appli Kindle. Ça prend à la page 13, je vais jusqu'à la page 17. Quand je reviens sur le Kindle, ça va à la page 17. Donc ça, c'est super. Et l'autre truc, c'est que maintenant, je regarde Twitter et dès que l'article il est un peu long, je fais bouton droit, envoyer à Instapaper.
D'accord,
et Instapaper, à 7 heures du soir, il m'envoie tous les articles que j'ai pas lus sur le Kindle. Et du coup, je peux les lire comme ça en déconnecté.
En revanche, j'imagine, c'est qu'il y a beaucoup de liens.
Alors ouais, c'est l'inconvénient. Bah, y a pas de temps. Enfin, après, bon, faut.
C'est pas l'article que tu choisis, mais la plupart des articles.
Tu peux cliquer sur un lien si tu veux, mais bon, c'est pas l'idée.
Ah, tu peux cliquer, tu as le...
Ouais.
C'est que t'es connecté?
T'es connecté, ouais, il y a du Wi-Fi.
D'accord.
Mais il plante une fois sur trois, hein. Navigateur sur une page. Et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça me réduit mon temps de Twitter, et après, le soir, je décide finalement des articles que je veux vraiment lire. J'ai eu le temps de dire, est-ce que je veux vraiment le lire ou pas, quoi. Donc,
tu as une expérience qui a rien à voir avec lire sur un iPad ou un truc, quoi.
Mais finalement, alors t'as l'écran qui est bien blanc, etc. Mais c'est plus le fait que ça ne fait que ça qui est utile. Et puis c'est léger et ça fait une vraie différence.
Ouais, quand tu dis dans le lit, c'est autonomie. Différent, j'imagine.
Ouais, exactement. D'accord. Voilà. Alors vous pouvez, si vous êtes contre Amazon. Vous pouvez faire ça avec un Kobo, avec un truc qui s'appelle Pocket au lieu de Instapaper. Donc vous pouvez remplacer. Et du coup, vous lisez
Pocket,
du iPod.
J'ai pas vu de moyen de faire comme tu faisais, c'est-à-dire de t'envoyer les articles de manière automatique et tout ça.
Cédric m'a dit. Si, je crois qu'il y a une appli Kobo justement qui fait ça.
Non, je parlais de Pocket. Pocket avec Kindle par exemple.
Oui, mais une appli Pocket sur Kobo, pardon.
D'accord, bah ok.
Mais il faudrait redemander à Cédric, je crois que c'est lui qui avait tweeté l'alternative. Voilà, donc moi je suis content, on va voir, j'espère que ça va tenir. En tout cas, du coup, je me dis en voyage, peut-être que je vais plus prendre l'iPad, à voir quoi. Donc ça c'était, c'est pas. Ah oui, et dernier truc, donc vous avez des mains dans le cambouis ou un truc ou...
Non.
D'accord. Et donc, dernier truc,
on
va faire une expérience. C'est chiant d'ailleurs, quand t'as vraiment mis les mains dans le cambouis, t'en as pour des heures à te laver les mains. On va faire une expérience. J'étais fier, j'avais inventé le mot crowdcasting, et en fait, je me suis aperçu que quelqu'un l'avait inventé avant moi. Alors, on peut inventer podsourcing ou crowdcasting, mais en fait, l'idée, c'est que... là, à partir de aujourd'hui, là où vous écoutez le podcast, et jusque à peu près dans un mois, il va y avoir des nouvelles. Et si vous voulez parler de cette nouvelle, vous allez prendre votre ordi, prendre un micro, et idéalement 2-3 minutes, en tout cas dépassez pas 5 minutes, sinon je le regarderai pas. Vous allez faire ce qu'on fait nous, Donc vous allez parler d'un sujet qui vous intéresse, donc un sujet d'actualité. Vous l'enregistrez alors dans une pièce calme. Audacity, c'est un truc gratuit qui vous permet d'enregistrer, mais si vous avez d'autres systèmes pour enregistrer, ça nous va.
En WAF.
Laissez du blanc avant, en gros laissez 10-15 secondes de blanc, parce que s'il y a du bruit d'ambiance, moi je vais pouvoir essayer de l'enlever. On va essayer de faire simple et petit, donc mettez ça en MP3 et envoyez-le moi par email à crowdcasting@lescascodeurs.com. Donc c'est crowdcasting@lescascodeurs.com. Ah oui, et puis mettez les show notes, donc mettez la catégorie, si vous avez un lien ou une liste de liens, mettez ça aussi dans l'email. Et bah je vais prendre, alors s'ils font tous 3 minutes, vous voyez, j'en prends histoire que ça dure 1h, 1h10, et je les enchaîne et on va essayer ce format là de temps en temps. Voilà. Je vais essayer de résumer tout ça dans un lien que je mettrai dans les show notes si vous voulez un peu plus d'infos sur comment m'envoyer les choses. Mais en tout cas, ça sera intéressant de voir si les gens se prennent au jeu.
Nous aussi, on peut participer.
Tu peux participer si tu veux.
Ouais. Ah, pour moi, c'était pas mal.
Ouais, c'est
clair. Et Vincent va enfin faire des coups.
Vincent, il va laisser que le blanc, en fait. 2 minutes de blanc. Bon, ça fait, je sais plus, au moins quasi 1h30 ouais. qu'on est ensemble. On va se quitter. Bon mois ou quinzaine de jours à tous. Et puis à la prochaine.
À la prochaine.
Ciao. Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.